Chapitre 5. Radio et réalité. 1. Ce sont avant tout les livres et les films qui nous intéressent, et nous y reviendrons avant longtemps, mais j'aimerais d'abord vous entretenir de la radio des années 1950. Je commencerai par évoquer mon cas personnel, et j'espère que nous pourrons en tirer profit pour émettre des remarques d'ordre plus général. Je fais partie du dernier carré de la dernière génération à se souvenir de la radio comme d'un média de premier plan, une forme d'art dramatique dotée de sa propre conception de la réalité. Cette déclaration est pour le moins irréfutable, mais approfondissons-la un peu. Le véritable âge d'or de la radio a pris fin vers 1950, l'année que je me suis fixé comme point de départ de mon aperçu historique, l'année où j'ai fêté mon 3e anniversaire, et où j'ai commencé à me passer de couche-culotte. En tant qu'enfant des masses médias, j'ai eu le privilège d'assister à la naissance du rock'n'roll et à sa croissance aussi saine que rapide. Mais j'ai également eu la douleur d'assister, lors de mes premières années d'existence, à l'agonie de la radio en tant que média pourvoyeur de fiction. Dieu sait que la radio diffuse encore des dramatiques. Voir par exemple le CBS Mystery Theater. Ainsi d'ailleurs que des œuvres comiques, comme le savent les fidèles auditeurs de Chicken Man, le plus inepte des super-héros. Mais le CBS Mystery Theater semble étrangement plat, étrangement mort. Ce n'est au mieux qu'une curiosité. On n'y trouve aucune trace de l'intensité émotionnelle qui sortait du poste chaque semaine lorsque s'ouvrait la lourde porte grinçante d'Inner Sanctum, sans parler des émissions comme Dimension X, I Love a Mystery, ou des premiers temps de suspense. Je m'efforce d'écouter le CBS Mystery Theater quand cela m'est possible, et E.G. Marshall fait à mon avis un excellent travail dans le rôle du narrateur. Mais je ne saurais vous le recommander sans réserve. Cette émission m'évoque une Studebaker encore en état de rouler, tant bien que mal, ou le dernier survivant d'une espèce en voie de disparition. En fait, le CBS Mystery Theater est pareil à une ligne à haute tension dans laquelle passait jadis un courant meurtrier et qui gît à présent sur le sol, immobile et inoffensive. The Adventures of Chicken Man, un feuilleton comique diffusé un peu partout en Amérique, lui est nettement supérieur. Après tout, la radio est souvent la terre d'élection de l'humour, mais ce super-héros aussi intrépide que maladroit n'est pas du goût de tout le monde, à l'instar des escargots ou du tabac à priser. Le passage que j'ai toujours préféré, c'est celui où Chicken Man monte dans le bus pour se rendre dans le centre-ville, vêtu de ses bottes, de son caleçon long et de sa cape, et constate que l'absence de poche dans son costume l'empêche d'avoir de la monnaie pour payer son ticket. Et bien que j'apprécie les mésaventures de Chicken Man, un homme qui passe d'une catastrophe à l'autre sans jamais perdre son allant, suivi de près par sa mère juive, toujours prête à le gaver de conseils et de bouillon de poule cachère, il ne m'a jamais entièrement convaincu. Sauf peut-être lorsqu'il s'est retrouvé devant ce chauffeur de bus, la cape entre les jambes. Chicken Man me fait sourire. Il me fait même glousser à l'occasion, mais il ne m'a jamais occasionné de crise d'hilarité comparable à celle qui me secouait jadis, lorsque Fibber McGee, un homme aussi indomptable que le temps, s'approchait de son placard, ou lorsque Chester A. Riley se lançait dans de longues et sinistres conversations avec son voisin, un croque-mort nommé Digger O'Dell. Quel chic type! De tous les programmes radio dont je me souviens encore aujourd'hui, celui qui rentre le plus dans le cadre de notre danse macabre s'intitulait Suspense et était présenté par le CBS Radio Network. C'est en compagnie de mon grand-père, celui qui avait jadis travaillé pour Winslow Homer, que j'ai assisté à l'agonie de la radio. Bien qu'âgé de 82 ans, il était encore relativement vert, mais sa barbe broussailleuse et ses dents disparues le rendaient incompréhensible. Quand il prenait la parole, et souvent pour ne pas la lâcher, seule ma mère avait la capacité de le comprendre. « Giesengruppen, Fusois Group ?» me demandait-il parfois quand nous nous asseyions pour écouter son vieux poste Philco, et moi de répondre « Oui, papy », sans avoir la moindre idée de ce qu'il avait pu vouloir dire. Mais nous restions unis par la radio. À cette époque, vers 1958, mes grands-parents demeuraient dans un salon reconverti en chambre, la plus grande pièce de leur petite maison du Maine. Papy arrivait encore, à peine, à se déplacer, mais ma grand-mère était aveugle, grabataire et rendue obèse par l'hypertension. Elle était parfois lucide, mais le plus souvent son esprit battait la campagne. Elle nous disait de nourrir les chevaux, d'attiser le feu, de l'aider à se lever, afin qu'elle prépare des tartes pour le dîner des Elks. Il lui arrivait même parfois de parler à Flossie, une des sœurs de ma mère. Flossie était décédée d'une méningite cérébrospinale 40 ans auparavant. Telle était donc la situation dans la chambre. Mon grand-père avait toute sa tête, mais on ne comprenait rien de ce qu'il disait. On comprenait parfaitement ma grand-mère, mais elle avait sombré dans la sénilité. Entre les deux, il y avait la radio de papy. Les soirs d'écoute, j'installais ma chaise dans le coin de la chambre réservée à mon grand-père, lequel allumait alors un de ses énormes cigares. On entendait le gong annonçant un nouvel épisode de suspense, ou encore la voix de Johnny Dollar qui introduisait sa nouvelle aventure en récitant sa note de frais. Une astuce de scénario à ma connaissance unique. Ou encore la voix grave et empreinte de lassitude de Bill Conrad dans le rôle du shérif Matt Dillon. Ça finit par vous rendre vigilant et un peu solitaire. Pour moi, l'odeur du cigare dans une petite pièce évoque des spectres bien précis. Ceux de ces dimanches soirs où j'écoutais la radio avec mon grand-père. Le grincement d'une porte, le cliquetis des éperons ou le hurlement qui retentissait à la fin d'un des classiques de suspense intitulé « You died last night ». Et ils sont bien morts, l'un après l'autre, les derniers programmes de l'âge d'or de la radio. Gunsmoke fut le premier touché. Le public, qui s'était contenté pendant 10 ans d'imaginer le visage des héros de cette série western, avait vu la télévision les concrétiser pour lui. Matt Dillon avait désormais les traits de James Harness, Kitty ceux d'Amanda Blake, Doc ceux de Milburn Stone et Chester ceux de Dennis Weaver. Et les voix de ces acteurs ont éclipsé celles qui sortaient de la radio, tant et si bien qu'aujourd'hui, 20 ans plus tard, c'est la voix légèrement nasillarde de Dennis Weaver que j'associe au personnage de Chester Good, ou Chester Proudfoot dans la version radio, lorsqu'il se précipite dans les rues de Dodge City et hurle « Shérif, shérif, il y a une bagarre au ranch Long Branch !» Environ 1 an plus tard, ce fut le tour de Johnny Dollar. Après avoir comptabilisé sa dernière note de frais, il est parti dans les limbes qui accueillent les enquêteurs des assurances à la retraite. Suspense, la dernière des émissions d'horreur, périt le même jour que Johnny Dollar, le 30 septembre 1962. Mais la télé avait déjà démontré qu'elle était capable de faire frissonner son public. Tout comme Gunsmoke, Inner Sanctum était passé du son à l'image, et sa porte grinçante était enfin visible. Visible et bien horrible, légèrement de guingois, festonnée de toiles d'araignée, mais un peu moins terrifiante qu'avant. Rien ne pouvait être aussi horrible que le bruit qu'elle émettait. Je ne vais pas me lancer dans une dissertation sur les raisons de la mort de la radio, ni sur sa supériorité par rapport à la télé en tant qu'outil d'éveil de l'imagination. Un sujet que nous aborderons un peu plus tard, lorsque nous parlerons du grand Arch Oboler. Car la dramatique radio a déjà fait l'objet de quantité d'analyses et de quantité d'éloges. Un peu de nostalgie ne fait jamais de mal, mais j'estime que je me suis suffisamment laissé aller pour le moment. Néanmoins, je souhaiterais m'attarder un peu sur l'imagination et son usage dans l'exercice de la terreur. L'idée que je vais exposer n'est pas de moi. Je l'ai entendue formuler par William F. Nolan lors de la World Fantasy Convention de 1979. « Rien n'est plus terrifiant que ce qui se trouve derrière une porte », affirme Nolan. Vous vous approchez d'une porte dans une vieille maison hantée et vous entendez soudain un grattement. Le spectateur retient son souffle, en même temps que le protagoniste, quand il, ou elle le plus souvent, s'approche de cette porte. Le protagoniste ouvre soudain la porte et apparaît un monstre de 3 mètres de haut. Les spectateurs se mettent à hurler, mais leur hurlement semble bizarrement soulagé. « Un monstre de 3 mètres de haut, c'est grave, » pense-t-il. « Mais j'arriverai à tenir le coup. J'avais peur qu'il fasse 30 mètres de haut. » Considérons, si vous le voulez bien, la séquence la plus terrifiante du film « L'enfant du diable ». L'héroïne, Trish Van Devere, se précipite dans la maison hantée que vient louer son ami, George C. Scott, persuadé qu'il a besoin d'aide. Scott s'est absenté, mais une série de bruits furtifs la persuade néanmoins de sa présence. Sous les yeux fascinés des spectateurs, Trish monte au premier étage, puis au deuxième, et finalement elle s'engage dans l'étroit escalier conduisant au grenier, où, 80 ans auparavant, un jeune garçon a été assassiné dans des circonstances atroces. Lorsqu'elle entre dans le grenier, le fauteuil roulant du garçon pivote soudain sur ses roues et se lance à sa poursuite. Et elle descend les 3 étages en hurlant, puis traverse le couloir, toujours pourchassée par le fauteuil, lequel se renverse finalement en atteignant le seuil de la maison. Les spectateurs poussent des cris durant toute cette scène, mais le summum de la terreur est déjà passé. Il est survenu lorsque la caméra montait le long de cet escalier plongé dans les ténèbres, lorsqu'ils imaginaient l'horreur tapie en haut des marches. Bill Nolan parle en tant que scénariste de cinéma et de télévision lorsqu'il donne l'exemple du monstre derrière la porte. Mais sa démonstration s'applique à tous les médias. Ce qui est tapis derrière la porte ou en haut de l'escalier n'est jamais aussi terrifiant que la porte ou l'escalier. Et là est le paradoxe. L'œuvre d'horreur s'avère presque toujours décevante. À tous les coups, l'on perd. On peut tenir un bon moment en terrifiant les gens avec l'inconnu. Bill Nolan évoque un exemple classique, Rendez-vous avec la peur, un film de Jacques Tourneur avec Dana Andrews. Mais comme au poker, on est tôt ou tard obligé d'abattre ses cartes, d'ouvrir la porte et de montrer au public ce qu'il y a derrière. Et s'il s'agit d'un monstre haut de 30 mètres, le public pousse un soupir ou un cri de soulagement et se dit « Un monstre de 30 mètres, c'est grave, mais j'arriverai à tenir le coup. J'avais peur qu'il fasse 300 mètres de haut. » En fait, l'esprit humain est capable d'encaisser presque n'importe quoi. Ce qui est une bonne chose, vu ce que certains de nos semblables ont dû affronter à Dachau, à Hiroshima, lors de la croisade des enfants, au Cambodge ou encore au Guyana. Et l'écrivain ou le cinéaste d'horreur doit résoudre un problème psychologique qui n'est pas sans rappeler celui de la quadrature du cercle. Il existe, et il a toujours existé, certains écrivains d'horreur, je ne suis pas du nombre, pour penser que la meilleure façon de résoudre le problème est de ne jamais ouvrir la porte. Un exemple classique de cette école de pensée, on y trouve même une porte, n'est autre que La Maison du Diable, le film que Robert Wise a tiré de La Maison Hantée, le roman de Shirley Jackson. Le livre et le film se ressemblent fort au niveau de leur intrigue, mais ils présentent, à mon avis, des différences significatives au niveau de leur orientation, de leur point de vue et de leurs effets. On parlait de radio, c'est ça? Ne vous inquiétez pas, on va y revenir tôt ou tard, je crois. Nous aurons par la suite l'occasion de discuter de l'excellent roman de Mrs. Jackson, mais limitons-nous au film pour l'instant. Un anthropologue, Richard Johnson, dont le hobby est la chasse aux fantômes, invite 3 personnes à passer quelque temps avec lui dans Hill House, une sinistre maison où se sont sans doute produites diverses atrocités et où on a peut-être, mais rien n'est moins sûr, aperçu de temps en temps quelques spectres. Il y a là 2 dames qui sont déjà entrées en contact avec le monde invisible, Julie Harris et Claire Bloom, et un jeune homme insouciant qui n'est autre que le neveu du propriétaire actuel, Russ Tamblyn, dont on a pu apprécier les talents de danseur dans West Side Story. Mrs. Dudley, la gardienne de la maison, lance à chacun des participants le même avertissement. « Personne n'habite entre la maison et la ville. Personne ne s'approchera d'ici. Personne ne vous entendra si vous hurlez. Dans la nuit. Dans le noir. » Bien entendu, il s'avère que Mrs. Dudley a parfaitement raison. et on ne tarde pas à s'en rendre compte. Les quatre chasseurs de fantômes subissent des expériences de plus en plus horribles, et le neveu insouciant finit par déclarer que cette propriété, dont il lui tardait tant d'hériter, devrait être rasée, et qu'on devrait répandre du sel sur ses fondations. Ce qui nous intéresse ici, c'est que nous ne voyons jamais ce qui hante Hill House. Il y a quelque chose dans cette maison, c'est entendu. Quelque chose tient la main d'Eleanor dans les ténèbres. Elle croit que c'est Théo, mais elle apprend le lendemain que Théo n'était même pas auprès d'elle. Quelque chose cogne sur les murs, produisant des bruits ressemblant à des coups de canon. Et c'est ce même quelque chose qui pousse une porte avec tant de force qu'elle en vient à ressembler à une grosse bulle de bois. Un spectacle si incongru qu'il ne peut qu'évoquer la terreur chez le spectateur. Comme le dirait Nolan, il y a quelque chose qui gratte à la porte. Et en fait, bien que la maison du diable bénéficie d'une excellente mise en scène, d'excellents acteurs et des superbes images en noir et blanc de David Bolton, le film de Wise est un des rares films d'horreur radiophonique. Quelque chose gratte à cette porte ouvragée, quelque chose d'horrible, mais c'est une porte que Wise choisit de ne pas ouvrir. Lovecraft ouvrait la porte, ou plutôt l'entr'ouvrait. Voici les dernières lignes du journal intime de Robert Blake dans « Celui qui hantait les ténèbres », une nouvelle dédiée à Robert Bloch. Sens de la distance abolie. Ce qui est loin est près, et ce qui est près est loin. Pas de lumière, pas de jumelles. Et je vois cette flèche, ce clocher, cette fenêtre. Suis fou, ou le deviens. La créature dans le clocher, je suis elle, et elle est moi. Je veux sortir. Il faut sortir et unir les forces. Elle sait où je suis. Je suis Robert Blake, mais je vois le clocher dans les ténèbres. Il y a une odeur monstrueuse. Les planches de cette fenêtre craquent et cèdent. Ya Ngaïig. Je la vois, elle vient par ici. Tache gigantesque, aile noire. Yog-Sothoth, sauve-moi! C'est ainsi que s'achève le texte, et nous n'avons qu'un vague aperçu de ce qu'a pu voir l'infortuné Robert Blake. Je ne peux pas vous décrire ça, nous déclare quantité de protagonistes. Si je le faisais, vous deviendriez fou de terreur. Personnellement, j'en doute. À mon sens, Wise et Lovecraft savaient que dans 99% des cas, ouvrir la porte serait préjudiciable à l'unité onirique de leur création. J'arriverai à tenir le coup, se dit le lecteur ou le spectateur en poussant un soupir de soulagement, et la partie est perdue juste avant le coup de sifflet final. Si je désapprouve cette méthode, laissons la porte enflée, mais gardons-nous de l'ouvrir, c'est parce que je suis convaincu que ceux qui l'emploient partent déjà perdants. Après tout, on a une chance sur 100 de gagner. Et n'oublions pas la suspension de l'incrédulité. En conséquence, je préfère ouvrir la porte à un moment ou à un autre des réjouissances, abattre franchement mes cartes, si vous voulez. Et si le lecteur hurle de rire plutôt que de terreur, s'il aperçoit la fermeture éclair sur le dos du monstre, eh bien, il ne me reste plus qu'à espérer que je ferai mieux la prochaine fois. Ce qu'il y avait de passionnant avec la radio, c'est qu'elle n'avait même pas à se poser la question de l'ouverture de la porte. Elle en était dispensée de par sa nature même. Entre 1930 et 1950, les auditeurs ne disposaient d'aucune image préconçue pour meubler leur conception de la réalité. Mais quelle était donc cette conception? Prenons à nouveau un exemple cinématographique dans un but de contraste et de comparaison. Parmi les classiques du cinéma de terreur que je n'ai jamais réussi à voir durant mon enfance, figure La Féline, un film produit par Val Lewton et mis en scène par Jacques Tourneur. Tout comme Freaks, c'est un film que les fans du genre considèrent comme un chef-d'œuvre. On pourrait aussi évoquer Rendez-vous avec la peur, Au cœur de la nuit et Le monstre. Mais limitons-nous pour l'instant à celui-ci. C'est un film dont nombre d'amateurs se souviennent avec affection et respect, et qui les a rendus morts de trouille. Deux de ces séquences sont particulièrement mémorables. Dans les deux cas, Jane Randolph, la bonne, est menacée par Simone Simon, la méchante, laquelle, avouons-le, n'est pas plus méchante que ce pauvre Larry Talbot dans Le Loup-garou. Dans la première séquence, Miss Randolph est coincée dans une piscine en sous-sol alors que tout près, de plus en plus près, rôde un grand félin sauvage. Dans la seconde, elle traverse Central Park et le félin se rapproche sans cesse, se prépare à bondir. Nous entendons un feulement rauque, produit en fait par les freins d'un autobus. Miss Randolph monte dans le bus et le spectateur pousse un soupir de soulagement, persuadé qu'un drame vient d'être évité de justesse. En termes d'impact psychologique, je suis prêt à considérer La Féline comme un bon, voire un grand film américain. C'est presque certainement le meilleur film d'horreur des années 1940. À la base du mythe des hommes-chats, des chats-garous si vous voulez, se trouve une profonde angoisse sexuelle. Durant son enfance, Irena, Miss Simon, a été convaincue que toute manifestation de passion de sa part aura pour conséquence de la métamorphoser en félin. Et pourtant, elle épouse Ken Smith, lequel est tellement fou d'elle qu'il lui passe la bague au doigt tout en sachant, et le spectateur avec lui, qu'il passera sa nuit de noces, et sans nul doute les suivantes, sur le canapé du salon. Pas étonnant que ce pauvre bougre s'intéresse à Jane Randolph. Mais retournons à nos deux scènes. Celle de la piscine est des plus efficaces. Lewton, comme Stanley Kubrick, en maîtrise totalement le contexte, éclairant la scène à la perfection et en contrôlant toutes les variables. Son authenticité s'impose à nous de toutes les façons possibles. Le carrelage des murs, le clapotis de l'eau, l'écho légèrement plat de la voix de Miss Randolph, qui pose une des questions fondamentales du film d'horreur. Qui est là ? Et je suis sûr que la scène de Central Park a également fait frissonner le public des années 1940. Mais aujourd'hui, elle tombe complètement à plat. Même le plus naïf des spectateurs la trouverait risible. J'étais déjà adulte lorsque j'ai enfin réussi à voir ce film, et je me suis longtemps demandé pourquoi on en faisait tout un plat. Et je crois avoir compris pourquoi cette scène fonctionnait jadis et ne fonctionne plus désormais. C'est en partie à cause de ce que les techniciens appellent l'état de l'art. Mais ce n'est là qu'un terme de spécialiste pour désigner ce que j'appellerais une idée préconçue de la réalité. Si jamais vous avez l'occasion de voir La Féline, à la télé ou dans une salle d'art et d'essai près de chez vous, regardez attentivement la scène où Irena traque Jane Randolph dans Central Park, et plus particulièrement, le moment où Miss Randolph se précipite vers l'autobus. Vous constaterez alors que cette scène n'a pas été tournée à Central Park. Elle a été tournée sur un plateau de cinéma. Réfléchissez un peu et vous comprendrez pourquoi. Tourneur, qui voulait contrôler l'éclairage de la scène à tout moment, n'a pas délibérément choisi de tourner sur un plateau. Il n'avait tout simplement pas le choix. En 1942, l'état de l'art ne lui permettait pas de tourner une scène nocturne en extérieur. Et plutôt que de la tourner de jour en usant du procédé dit « de la nuit américaine », lequel ne fait pas illusion un seul instant, Tourneur a opté pour le plateau, avec raison à mon avis. Et il est intéressant de noter que 40 ans plus tard, Stanley Kubrick a choisi la même solution pour Shining. Et, comme Lewton et Tourneur, Kubrick est un cinéaste doué d'une exquise sensibilité pour l'ombre et la lumière. Pour les spectateurs de cette époque, cette option était parfaitement valide. Ils avaient l'habitude d'intégrer le plateau de cinéma à leur conception de la réalité. Ils l'acceptaient sans problème, tout comme nous accepterions un décor dépouillé dans une pièce de théâtre qui ne nécessite qu'un espace nu sur la scène. Voir par exemple Our Town de Thornton Wilder, alors que le spectateur de l'ère victorienne se rebellerait à cette idée. Peut-être pourrait-il accepter le principe de l'espace nu, mais la pièce perdrait alors à ses yeux une partie substantielle de son charme et de ses effets. Our Town serait étrangère à sa conception de la réalité. C'est pour la même raison que la scène de Central Park perd toute crédibilité à mes yeux. Lorsque la caméra suit Miss Randolph dans sa fuite, tous les éléments du décor m'apparaissent clairement comme factices. Alors que je suis censé m'inquiéter du sort de Miss Randolph, je me surprends à m'interroger sur ce mur en papier mâché. Lorsque l'autobus s'arrête enfin, produisant avec ses freins un grondement proche de celui du félin, je me demande comment on a fait pour transporter ce bus new-yorkais sur le plateau et si les buissons que l'on aperçoit dans le fond sont réels ou en plastique. La conception de la réalité s'altère avec les ans, et les frontières de ce pays mental où poussent les fruits de l'imagination, la « zone crépusculaire », pour reprendre l'expression de Rod Serling qui fait aujourd'hui partie du langage américain, se redessine sans cesse. Durant les années 1960, une décennie où j'ai vu plus de films que je n'en verrai jamais, l'état de l'art avait progressé jusqu'à un point où le plateau de cinéma était quasiment démodé. Grâce au nouveau type de pellicule, il était désormais possible de tourner n'importe où et n'importe quand. En 1942, Val Lewton ne pouvait pas filmer Central Park de nuit. Mais dans Barry Lyndon, Stanley Kubrick a tourné plusieurs scènes éclairées à la bougie. Ce saut quantique de technicité a une conséquence paradoxale. Il vide la banque de l'imagination. C'est peut-être parce qu'il l'avait compris que Kubrick est revenu au tournage sur plateau pour son film suivant, à savoir Shining. Tout ceci semble nous éloigner des dramatiques radio et de cette histoire de porte ouverte ou fermée, mais nous sommes en plein dedans, ou presque. Tout comme les spectateurs des années 1940 et 1950 croyaient au Central Park de Val Lewton, les auditeurs croyaient ce que leur disaient les annonceurs, les acteurs et les ingénieurs du son. Ils avaient certes une conception de la réalité, mais celle-ci était malléable, quasiment vierge de toute idée préconçue. Quand ils imaginaient le monstre dans leur esprit, il n'y avait pas de fermeture éclair sur son dos. C'était un monstre parfait. Aujourd'hui, quand on écoute les enregistrements d'une vieille émission baptisée « The Make-Believe Ballroom », on ne parvient pas à l'accepter. Pas plus que je n'accepte le mur en papier mâché de Val Lewton. Tout ce qu'on entend, c'est un disque jockey qui passe des disques dans un studio. Mais pour les auditeurs de jadis, The Make-Believe Ballroom participait de la réalité. Ils imaginaient sans peine les danseurs en smoking, les danseuses en robe de soirée, les chandelles accrochées au mur et Tommy Dorsey, vêtu de son superbe complet blanc, en train de diriger l'orchestre. Et quand le Mercury Theatre d'Orson Welles a présenté sur les ondes sa célèbre adaptation de La Guerre des Mondes, c'était le soir de Halloween, et l'Amérique ne l'a jamais oublié, le royaume de l'imagination est devenu si grand que la panique a régné dans tout le pays. Ça n'aurait jamais marché à la télé, mais il n'y avait aucune fermeture éclair sur le dos de ces martiens de radio. Si la radio a réussi à faire l'impasse sur cette fichue porte, c'est à mon avis parce qu'elle faisait des dépôts plutôt que des retraits à la banque de l'imagination. Au diable l'état de l'art. La radio rendait réel tout ce qu'elle touchait. 2. C'est à Ray Bradbury que je dois ma première expérience de la terreur, sous la forme de l'adaptation radiophonique de sa nouvelle « La troisième expédition » dans le cadre de l'émission « Dimension X ». Ça devait se passer vers 1951, ce qui veut dire que j'avais à peine 4 ans. J'avais demandé à ma mère la permission de l'écouter, et elle me l'avait aussitôt refusé. « C'est beaucoup trop tard », déclara-t-elle. Et ce serait beaucoup trop dérangeant pour un enfant de ton âge. » Maman m'avait raconté qu'une de ses sœurs avait failli se suicider dans sa baignoire durant la diffusion de La Guerre des Mondes d'Orson Welles. Et ma tante avait soigneusement organisé son départ. Les yeux braqués sur la fenêtre de sa salle de bain, elle attendait l'apparition des engins de mort des Martiens pour commencer à se tailler les poignets. Elle avait été sérieusement dérangée par l'adaptation de Welles, pourrait-on dire. Et les paroles de ma mère résonnent encore à mes oreilles, comme dans un cauchemar qui n'aurait jamais pris fin. Trop dérangeant, dérangeant, dérangeant. Mais je me suis quand même planqué derrière la porte pour écouter la radio, et elle avait raison. C'était sacrément dérangeant. Des astronautes se posent sur Mars. Mais ce n'est pas Mars qu'ils trouvent devant eux. c'est cette bonne ville de Greentown, Illinois, et elle est habitée par leurs amis et parents disparus. Il y a là leur maman, leurs petites amies, ce cher Clancy, l'agent de la circulation, et Miss Henrys, l'institutrice. Sur la planète Mars, Lou Gehrig s'illustre encore dans l'équipe des Yankees. Mars, c'est le paradis, décident les astronautes. Les indigènes les accueillent chez eux et ils y dorment du sommeil du juste. Ils digèrent leur hamburger, leur hot dog et la tarte aux pommes de leur maman. Un seul d'entre eux soupçonne une indicible obscénité et il a raison. Tu parles qu'il a raison. Mais lorsqu'il prend pleinement conscience de l'illusion dont il a été victime, il est déjà trop tard. Car dans la nuit, tous ces visages bien-aimés commencent à se dissoudre et à s'altérer. Des yeux naguère sages et aimants se transforment en abîmes de haine. Les joues roses de papy et de mamie s'étirent et virent au jaune. Les nez s'allongent pour former des trompes ridées. Les bouches deviennent des gueules béantes. Et la nuit se peuple d'horreurs, de cris désespérés et de hurlements d'angoisse. Car Mars n'est pas le paradis après tout. Mars est un enfer de haine, de faux-semblants et de meurtres. Je n'ai pas dormi dans mon lit cette nuit-là. J'ai dormi sur le seuil de ma chambre, le visage baigné par la lueur réelle et rationnelle de l'ampoule de la salle de bain. Tel était le pouvoir de la radio à son apogée. The Shadow, nous assurait-on au début de chaque épisode, avait le pouvoir d'obscurcir l'esprit humain. Et je suis frappé de constater que, lorsqu'on parle de la fiction dans les médias, ce sont le cinéma et la télévision qui obscurcissent le plus souvent cette partie de notre esprit où l'imagination peut s'épanouir le plus librement. Pour ce faire, ils nous imposent la dictature de l'image. Si l'on considère l'imagination comme une créature mentale susceptible de prendre une centaine de formes différentes, imaginez par exemple que Larry Talbot ne soit pas seulement condamné à se changer en loup à chaque pleine lune, mais qu'il puisse se transformer chaque nuit en toutes sortes de créatures, du requin-garou à la puce-garou. Alors, l'une de ses formes est un gorille enragé, une créature aussi dangereuse qu'incontrôlable. Si cela vous semble un tantinet mélodramatique, pensez à vos enfants ou à ceux de vos amis. Et peu importe votre propre enfance, peut-être vous rappelez-vous relativement bien certains événements qui ont pu la marquer. Mais les souvenirs que vous gardez de vos émotions d'alors sont complètement erronés. Et au jour où ils se sont trouvés incapables d'éteindre la lumière de leur chambre, de descendre dans la cave, ou tout simplement d'attraper leur manteau dans le placard, tout ça parce qu'ils avaient vu ou entendu quelque chose qui les avait terrifiés, et pas forcément un film ou un feuilleton télé. J'ai déjà évoqué la redoutable tête de pioche. John Day MacDonald raconte que son fils a vécu durant plusieurs semaines dans la terreur d'une créature baptisée l'éventreur vert. MacDonald et sa femme ont fini par avoir le fin mot de l'histoire. Un de leurs amis avait parlé lors d'un dîner de la sinistre faucheuse. Et leur fils avait entendu l'éventreur vert, une expression que MacDonald a ensuite utilisée comme titre d'une enquête de son héros, Travis McGee. Il y a tellement de choses susceptibles de terrifier un enfant que les adultes finissent par comprendre qu'un excès d'inquiétude de leur part risque d'être préjudiciable à leur relation avec lui. On se sent un peu dans la peau d'un soldat égaré dans un champ de mine. Sans parler d'un autre facteur qui vient encore compliquer la situation. Il nous arrive parfois de susciter nous-mêmes la terreur chez nos enfants. Un jour, leur disons-nous, peut-être qu'un homme au volant d'une voiture noire s'arrêtera près de toi et t'offrira un bonbon si tu veux bien monter avec lui. Et c'est un méchant homme. Lire le croque-mitaine. Et s'il te demande ça, tu ne dois jamais, jamais, jamais. Ou bien, écoute, Ginny, au lieu de laisser ta dent pour la petite souris, on va la mettre dans un verre de coca. Et demain matin, ta dent aura disparu. Le coca l'aura dissoute. Alors pense-y la prochaine fois que tu auras envie de dépenser ton argent de poche à... Ou encore, les petits garçons qui jouent avec des allumettes font tous pipi au lit. Ils ne peuvent pas s'en empêcher. Alors ne fais jamais... » Et le bouquet final, « Ne mets pas ça dans ta bouche, tu ne sais pas d'où ça sort. » La plupart des enfants s'accommodent fort bien de leur terreur. Du moins le plus souvent. Le bestiaire de leur imagination est si étendu, si merveilleusement varié, que le gorille n'apparaît que peu fréquemment. Non content de s'inquiéter au sujet de ce qui se trouve dans le placard ou sous le lit, ils doivent s'imaginer dans le rôle d'un pompier ou d'un policier. Leur imagination endosse alors le costume du proche chevalier, dans celui d'une infirmière ou d'une mère de famille, dans celui de divers super-héros et enfin dans ceux de leurs parents, enfilant de vieux habits dans le grenier et se tenant par la main devant une glace qui leur montre le moins menaçant des avenirs. Ils ont à faire l'expérience de toute une palette d'émotions, de l'amour absolu à l'ennui total, afin de les essayer comme on essaie des chaussures avant de les acheter. Mais de temps à autre, le gorille sort au grand jour. Les enfants savent que cette facette de leur imagination doit rester dans sa cage. Ce n'est qu'un film. Ça ne peut pas arriver pour de vrai, n'est-ce pas? Ou, comme l'écrit Judith Viorst dans un de ses excellents livres pour enfants, « Ma maman dit que les fantômes, les vampires et les zombies, ça n'existe pas. Et cependant... » Mais cette cage est nécessairement plus fragile que celle bâtie par leurs aînés. Je ne pense pas qu'il puisse exister un être humain dénué de toute trace d'imagination, même si j'en suis venu à croire que certains de mes semblables sont dépourvus du sens de l'humour le plus élémentaire. Mais c'est parfois l'impression que ça fait. Peut-être parce que la plupart des gens ne se contentent pas d'enfermer leur gorille dans une cage et préfèrent utiliser un coffre-fort digne de la Chase Manhattan Bank, avec serrure ne s'ouvrant qu'à heure fixe. J'ai naguère fait remarquer à un journaliste qui m'interviewait que la plupart des grands écrivains avaient un visage quasiment enfantin. Et cette observation me paraît encore plus pertinente lorsqu'on l'applique aux auteurs de fantastique. L'exemple le plus frappant est sans doute celui de Ray Bradbury, qui ressemble encore aujourd'hui au petit garçon de l'Illinois qu'il était jadis. Et ce, en dépit de ses 60 ans et quelques, de ses cheveux gris et de ses grosses lunettes. Robert Bloch a le visage d'un garnement de cour moyen, le clown de la classe, et ce, en dépit de son âge. Je n'oserais estimer celui-ci, redoutant qu'il n'envoie Norman Bates à mes trousses. C'est le visage du gosse qui s'assied au dernier rang, du moins jusqu'à ce que l'instituteur lui ordonne de s'installer au premier, ce qui ne tarde pas, et s'amuse à faire des bruits bizarres en frottant la paume de ses mains sur son bureau. Harlan Ellison a le visage d'un adolescent élevé à l'école de la rue, assez sûr de sa force pour se montrer affable la plupart du temps, mais prêt à vous donner une bonne leçon si vous lui cherchez des crosses. Mais cette impression que je m'efforce de décrire, ou d'évoquer, il est presque impossible de la décrire, est surtout perceptible sur le visage d'Isaac Bashevis Singer, lequel, quoique considéré par la critique établie comme relevant de la vraie littérature, a consacré une bonne partie de sa carrière au diable, aux anges, aux démons et aux e-books. Attrapez donc un bouquin de Singer et jetez un coup d'œil à la photo de l'auteur. Et ensuite, vous pourrez lire le bouquin, d'accord? Son visage est celui d'un vieillard, mais ce n'est là qu'un masque des plus superficiels. Le petit garçon qu'il était est encore visible sur ses traits. Ça se voit surtout à ses yeux. Ils sont jeunes et clairs. Si les écrivains de fantastique gardent ce visage juvénile, c'est peut-être parce qu'ils aiment bien le gorille. Ils n'ont jamais pris la peine de renforcer sa cage, et en conséquence, ils n'ont jamais eu à subir cette atrophie de l'imagination qui accompagne le passage à l'âge adulte, ce rétrécissement du champ visuel si nécessaire à la réussite de l'adulte. Un des paradoxes du fantastique et de l'horreur, c'est que l'écrivain spécialisé est comparable aux deux petits cochons qui construisent leurs maisons respectives en paille et en bois. Sauf qu'au lieu de retenir sa leçon et de se construire une maison en briques, comme leur frère aîné et si adulte, immortalisé à jamais dans mon esprit par la casquette de mécano dont l'avait affublé Walt Disney, l'écrivain se contente de la rebâtir avec de la paille ou du bois. Parce que, si dingue que ça paraisse, il aime voir arriver le loup qui va anéantir sa demeure, tout comme il aime voir le gorille sortir de sa cage. La plupart des gens ne sont pas des écrivains spécialisés, bien entendu, mais la quasi-totalité d'entre nous a besoin de temps à autre de se nourrir l'imagination avec des mets de ce style. Nous savons confusément que l'imagination a besoin de sa dose de terreur, tout comme le corps peut parfois avoir besoin de vitamines ou de sel iodé. Le fantastique, c'est le sel de l'esprit. J'ai évoqué un peu plus haut la suspension de l'incrédulité. La définition, due à Coleridge, de l'effort que doit faire le lecteur s'il veut pleinement apprécier un conte, un roman ou un poème fantastique. En d'autres termes, le lecteur doit laisser le gorille sortir de sa cage pour quelques instants, et quand on aperçoit la fermeture éclair sur le dos du monstre, le gorille s'empresse de regagner sa prison. Après tout, lorsque nous atteignons la quarantaine, ça fait un bout de temps qu'il est là-dedans. Et peut-être a-t-il fini par adopter ce qu'on appelle la mentalité carcérale. Parfois, on doit le forcer à sortir avec un aiguillon à bestiaux. Et parfois, il refuse carrément de sortir. Ceci considéré, le concept de réalité devient fichtrement difficile à manipuler. Le cinéma y est parvenu, bien entendu. Dans le cas contraire, ce livre serait plus court d'un bon tiers. Mais en contournant la difficulté de l'image, la radio a développé un outil stupéfiant, voire dangereux, comme le suggère la panique et l'hystérie qui ont saisi le pays lors de la diffusion de la Guerre des Mondes, pour faire sauter la serrure de la cage du gorille. Mais en dépit de la nostalgie qui nous envahit quand nous pensons à la radio, il nous est impossible de revenir à cette époque bénie pour goûter à la terreur radiophonique. Cette pince, monseigneur, est bel et bien cassée, pour la simple raison que nous exigeons désormais, pour le meilleur et pour le pire, un élément visuel dans notre conception de la réalité. Que ça nous plaise ou non, nous ne pouvons rien y changer. 3. Nous avons presque achevé notre bref chapitre sur la radio. Le prolonger davantage me conduirait, j'en ai peur, à radoter comme un de ces cinéphiles, prêt à passer la nuit à vous convaincre que Charlie Chaplin était le plus grand acteur de tous les temps, ou que les Western Spaghetti de Clint Eastwood représentent l'apogée du cinéma existentiel ou absurdiste. Mais aucun exposé sur la terreur radiophonique, si bref soit-il, ne saurait être complet sans une mention du plus grand auteur du genre, lequel n'est pas Orson Welles, mais Arch Oboler, le premier dramaturge radio à avoir eu sa propre émission nationale, l'extraordinaire Lights Out. Lights Out date en fait des années 1940, mais nombre de ses épisodes ont été rediffusés durant les années 1950 et jusqu'aux années 1960, ce qui me permet de l'inclure dans mon exposé. La dramatique qui m'a laissé la plus forte impression s'intitulait « The Chicken Heart That Ate the World » et je l'ai entendu lors de sa rediffusion dans le cadre de Dimension X. Oboler, à l'instar de maints praticiens de l'horreur, Alfred Hitchcock nous fournirait un exemple typique, avait parfaitement conscience des aspects potentiellement comiques de l'horreur. Et cela n'a jamais été aussi évident que dans cette histoire de cœur de poulet, dont l'absurdité foncière vous arrachait des gloussements en même temps que vos bras se couvraient de chair de poule. Vous vous rappelez qu'il y a quelques jours, vous m'avez demandé de quelle façon se déroulerait la fin du monde ? Le savant qui a malencontreusement déchaîné la terreur sur le pauvre monde pose cette question à son jeune protégé, alors qu'il survole le monstrueux cœur de poulet à 5000 pieds d'altitude. « Vous rappelez-vous ma réponse ?»« Ah, que d'érudition dans mes prophéties !»« Je vous ai exposé mes théories mûrement réfléchies, le ralentissement de la rotation de la Terre, le triomphe de l'entropie... » Mais la réalité est sous nos yeux, Louis. La fin du genre humain. Et ce qui y préside, ce n'est pas le rougeoiement d'une explosion atomique, ni la gloire de la combustion interstellaire, ni la paix d'un silence blanc et glacé, mais ceci. Cette masse de chair amorphe et avide. C'est une blague, pas vrai, Louis? Une blague cosmique. La fin du genre humain causée par un cœur de poulet. « Non, bafouille Louis, non, je ne peux pas mourir. Je vais trouver un coin tranquille où me poser et... » Puis, à cet instant précis, le ronronnement apaisant du moteur de l'avion se transforme en tout cacochime. « Nous tombons en vrille !» s'écrie Louis. « La fin du genre humain !» déclare le savant d'une voix de stentor, et les deux hommes tombent droit sur le cœur de poulet. Nous l'entendons battre, de plus en plus fort, et la dramatique s'achève sur un sinistre splash. Ce qui faisait entre autres le génie d'Oboleur, c'était que l'auditeur avait à la fois envie de rire et de vomir. « Prêt à larguer les bombes !» commençait cette vieille pub radio, un ronronnement en bruit de fond. On imagine un ciel empli de forteresses volantes. « Lâchez la crème glacée sur le détroit de Puget !» poursuit la voix. Le gémissement hydraulique des portes de la soute, un sifflement suraigu suivi d'un énorme splash. « Parfait. Préparez le sirop au chocolat, la crème fouettée et larguez les cerises à l'eau de vie !» Nous entendons un gros bruit liquide lorsque tombe le sirop au chocolat, puis un sifflement lors de la chute de la crème fouettée. Ces bruits sont suivis par un plop, plop, plop. Et si absurde que cela paraisse, l'esprit réagit à ces stimuli. L'œil intérieur voit bel et bien une série de gigantesques glaces émerger du détroit de Puget, telles d'étranges cônes volcaniques, tous surmontés d'une cerise aussi grosse que le Kingdom de Seattle. En fait, nous voyons tomber à verse ces cerises à cocktail d'un rouge écœurant, et nous les voyons creuser dans la crème fouettée des cratères aussi grands que celui de Tycho. Tout ça grâce au génie de Stan Freberg. Arch Oboleur, un homme d'une intelligence prodigieuse qui travailla aussi pour le cinéma, il fut à l'origine de « Cinq survivants », un des premiers films à traiter du sort de l'humanité après la Troisième Guerre mondiale, et pour le théâtre, tira parti de deux des principales forces de la radio. La première, c'est l'obéissance innée de l'esprit, qui est prête à visualiser tout ce qu'on lui suggère, jusque et y compris les pires absurdités. La seconde, c'est le fait que la peur et l'horreur sont des émotions aveuglantes qui démantibulent nos échasses d'adultes et nous laissent dans le noir absolu, aussi désemparés que des enfants incapables de trouver l'interrupteur. La radio, bien entendu, est le média aveugle par excellence, et seul Oboleur a su exploiter cette cécité pour en tirer le maximum d'effet. Nos oreilles modernes, bien entendu, ont vite fait de repérer les conventions nécessaires de ce média qui ont fini par devenir obsolètes. En grande partie parce que l'élément visuel fait désormais partie intégrante de notre conception de la réalité, mais ce sont là des conventions que le public de l'époque acceptait sans problème, à l'instar du mur en papier mâché dans la Féline. Si elles sonnent faux à l'oreille des auditeurs des années 1980, tout comme les apartés shakespeariens sonnent faux aux oreilles d'un néophyte en matière de théâtre, eh bien, c'est notre problème, et c'est à nous de le résoudre. Parmi ces conventions figure l'utilisation de la narration dans l'agencement de l'intrigue, ainsi que la description dialoguée, une technique nécessaire à la radio, mais que le cinéma et la télé ont rendu caduque. Voici par exemple un extrait de « The Chicken Heart That Ate the World », où le docteur Albert discute du dit cœur de poulet avec Louis. Lisez ce passage, puis demandez-vous s'il sonne juste à vos oreilles de spectateurs entraînés.
Regardez ça, là, en bas. Une immense couverture maléfique étendue sur toute chose. Regardez les routes. Elles sont envahies d'hommes, de femmes et d'enfants fuyant cette menace. Voyez comme ce protoplasme grisâtre se tend vers eux pour les engloutir.
À la télé, un tel dialogue serait considéré comme risible et redondant, voire kitsch. Mais si on l'écoute dans l'obscurité, avec le ronronnement du moteur d'avion en fond sonore, il est redoutablement efficace. Bon gré mal gré, l'esprit conjure l'image que lui impose Oboleur. Un immense tas de gelée, animé de pulsations régulières, engloutissant les réfugiés sur leur route. Ironie de l'histoire, la télévision et les premiers films parlants ont commencé par s'appuyer sur les techniques de la radio avant de se forger un langage qui leur était propre, ainsi que leurs propres conventions. La plupart d'entre nous se souviennent encore des ponts narratifs des premières dramatiques télé. Voir par exemple Truman Bradley, un individu à l'air plutôt inquiétant qui prononçait une petite conférence scientifique au début de chaque épisode du Science Fiction Theater, puis refaisait son apparition à la fin pour nous donner la morale de l'histoire. L'exemple le plus récent et sans doute le plus éclatant de l'utilisation de cette technique était l'intervention en voix off de feu Walter Winchell à la fin de chaque épisode des Incorruptibles. Mais si nous regardons attentivement les premiers films parlants, nous constatons qu'ils employaient eux aussi la narration et la description dialoguée. Ces deux techniques étaient rendues inutiles par l'image, mais leur usage s'est prolongé quelque temps encore, un peu comme un appendice ayant perdu sa nécessité et que l'évolution n'a pas encore supprimé. L'exemple que je préfère se trouve dans les dessins animés de Superman, par ailleurs plein d'innovations, que Max Fleischer a produit au début des années 1940. Au début de chacun d'eux, le narrateur nous explique d'une voix solennelle qu'il existait jadis une planète nommée Krypton qui luisait dans le ciel comme un gros joyau vert. Et la voilà, bon sang. Et elle est bien en train de luire dans le ciel comme un gros joyau vert. L'instant d'après, elle explose dans un éclair aveuglant. Et Krypton explosa, nous informe le narrateur, alors que les débris de la planète s'éparpillent dans l'espace. Au cas où on n'aurait pas bien vu. Oboler utilisait une troisième technique dans la composition de ses dramatiques radio. Et cela nous ramène à Bill Nolan et à sa porte fermée. « Quand cette porte s'ouvre, nous dit-il, nous découvrons un monstre de 3 mètres de haut. Et notre esprit, dont la capacité de visualisation dépassera toujours l'état de l'art, se sent soulagé. L'esprit, quoique obéissant, après tout, qu'est-ce que la folie selon les gens saints d'esprit, sinon un genre de désobéissance mentale, est étrangement pessimiste, voire le plus souvent carrément morbide. Comme il n'utilisait qu'avec parcimonie le procédé de la description dialoguée, à l'inverse des créateurs de The Shadow et d'Inner Sanctum, Oboler était en mesure d'exploiter cette tournure d'esprit pour créer certains des effets les plus stupéfiants qu'ait eu le privilège d'entendre les auditeurs terrifiés. Aujourd'hui, si la violence télévisuelle a été unanimement condamnée et en grande partie exterminée, si on compare les séries les plus récentes à celles des années 1960, comme par exemple Les Incorruptibles, Peter Gunn et Thriller, c'est parce qu'elle est le plus souvent explicite. Nous voyons le sang couler. Telle est la nature du média, telle est notre conception de la réalité. Oboler ne lésinait pas sur le sang et la violence. Mais les choses restaient en grande partie implicites. L'horreur ne se manifestait pas devant une caméra, mais dans la chambre noire de l'esprit. Le meilleur exemple que je puisse citer est sans doute une dramatique, dont le titre serait digne du dessinateur humoristique Don Martin. A Day at the Dentist. Lorsque l'histoire débute, le héros, un dentiste, se prépare à fermer son cabinet. Sa secrétaire lui apprend qu'il a encore un patient à traiter, un nommé Fred Hausman. Il dit que c'est urgent, précise-t-elle. Hausman ? Demande sèchement le dentiste. Oui. Fred Hausman ? Oui. Vous le connaissez ?
Non.
Non, répond le dentiste d'une voix neutre. Si Hausman est venu voir notre héros, apprenons-nous, c'est parce que le docteur Charles, dont il a repris la clientèle, avait la réputation d'être indolore. Et Hausman, qui a pourtant été catcheur et joueur de football américain, a une sainte horreur du dentiste, tout comme la plupart d'entre nous, et Oboler le sait parfaitement. Hausman commence à avoir des doutes lorsque le dentiste l'attache sur le fauteuil. Il proteste énergiquement. Le dentiste lui déclare d'une voix parfaitement raisonnable, et comme cette voix raisonnable éveille nos soupçons, après tout, qui semble plus raisonnable qu'un dément, que, si le traitement doit être indolore, le patient doit rester rigoureusement immobile. Une pause, puis le bruit d'une sangle que l'on boucle, fermement. « Et voilà !» dit le dentiste d'une voix apaisante.
ficelé comme un dindon. Drôle de comparaison, n'est-ce pas? Vous n'êtes pas un dindon, pas vrai? Vous ressembleriez davantage à un coq de village, n'est-ce pas?
Oh oh! Intervient une voix morbide dans notre crâne.
Ça a l'air de mal tourner pour ce pauvre Fred Hausmann.
Oh oui!
Et ça tourne très mal. Le dentiste, qui s'exprime toujours d'une voix si apaisante, si raisonnable, continue à traiter Hausmann de coq de village. Nous apprenons alors que Hausmann a ruiné la réputation de la jeune fille que le dentiste a épousée par la suite. Il a souillé son nom dans toute la ville. Le dentiste, ayant appris que Hausmann avait l'habitude de consulter le docteur Charles, a racheté la clientèle de celui-ci, se doutant que Hausmann viendrait tôt ou tard lui rendre visite pour subir un traitement indolore. Et pendant qu'il attendait son heure, le dentiste a installé des sangles sur son fauteuil, pour le seul bénéfice de Fred Hausmann. Bien entendu, ce scénario a, depuis belle lurette, jeté toute notion de vraisemblance aux orties. Mais on pourrait appliquer la même remarque à La Tempête de Shakespeare. En voilà une comparaison impudente. L'esprit, cependant, s'en soucie désormais comme d'une guigne. Et Oboler, quant à lui, ne s'en est jamais soucié. À l'instar des meilleurs écrivains d'horreur, il s'intéresse avant tout à l'effet qu'il aura sur son auditeur, lequel doit en théorie se retrouver knock-out à la fin de l'histoire. Et c'est bien ce qui se passe avec A Day at the Dentist.
Qu'allez-vous faire ?
Demande Hausmann d'une voix tremblante, faisant écho à la question que nous nous posons depuis que nous avons eu la mauvaise idée d'écouter cette horreur. La réponse du dentiste est aussi simple que terrifiante, d'autant plus terrifiante qu'elle éveille dans notre esprit des images qu'Oboler refuse de préciser, nous laissant dans l'expectative le plus longtemps possible. Et, vu les circonstances, cela risque d'être bref.
Rien de bien important.
Le dentiste appuie sur un bouton et nous entendons vrombir sa fraise.
Je vais creuser un petit trou et le coq de village va perdre un petit quelque chose.
Hausmann pousse un hoquet de peur et de révulsion, mais ce bruit est étouffé par celui de la fraise qui devient de plus en plus fort, de plus en plus fort, et stop. Fin. La question que nous nous posons est la suivante. Où ce dentiste démoniaque a-t-il creusé son petit trou? C'est une question que seule la radio, de par sa nature même, peut poser de façon aussi convaincante tout en se permettant de la laisser sans réponse. Nous en voulons un peu à Oboler de rester silencieux, en partie parce que notre esprit nous suggère toutes sortes de possibilités, plus déplaisantes les unes que les autres. J'ai d'abord cru que le dentiste avait appliqué sa fraise contre la tempe de Hausmann, l'assassinant au moyen d'une opération au cerveau improvisé. Mais plus tard, quand j'ai eu quelques années de plus et que j'ai pu comprendre la nature du crime de Hausmann, une autre possibilité m'est venue à l'esprit, encore plus déplaisante. Et aujourd'hui, alors que j'écris ces lignes, je me demande encore où ce dingue a appliqué sa fraise.
4.
Bon, ça suffit. Il est temps de quitter l'oreille pour passer à l'œil. Mais avant de tourner la page, j'aimerais vous rappeler quelque chose que vous savez sans doute déjà. Nombre de vieilles émissions radio, Dinner Sanctum à Gangbusters, en passant par des soap opéra comme Our Girl Sal, ont été reproduites sur disque ou sur cassette. Et la qualité de ces enregistrements est en fait supérieure à celle des vieilles séries télé que l'on rediffuse de temps à autre sur les chaînes vouées à la nostalgie. Peut-être désirez-vous savoir si vous êtes encore capable de suspendre votre incrédulité et de renoncer à la conception de la réalité qu'ont instillée en vous le cinéma et la télévision, auquel cas je ne saurais trop vous encourager à faire un tour chez votre disquaire. Ou plutôt, consulter le catalogue Schwann, spécialisé dans les disques parlés. Et si votre disquaire ne dispose pas du titre qui vous intéresse, il se fera un plaisir de le commander. Et si ma prose vous a donné envie de faire la connaissance d'Arch Oboler, permettez-moi de vous confier un secret. Drop Dead, An Exercise in Horror,
produit, écrit et réalisé par Arch Oboler, est disponible pour votre plus grand plaisir chez Capital Records. Capital, SM1763. Sans doute encore plus rafraîchissant qu'un grand verre de thé glacé, si vous arrivez à débarrasser votre conception de la réalité de toute image pendant 40 minutes environ.